Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2002. Kangar et Madina, guidés par le bout du guidon. Nous passons près du barrage de Selingué, construit en 1982. Clé le connaît déjà pour y avoir joué lors du concert d'inauguration. Un technicien nous fait visiter les installations. Nous rencontrons tous les employés présents, des salles des machines aux salles de contrôle. À tour de rôle, chacun d'eux est désigné pour préparer et servir le thé aux autres durant toute la journée. Cette centrale hydroélectrique distribue de l'électricité aux principales villes du Mali. Draman nous fait remarquer, mais les villages alentours en sont toujours privés. Nous nous situons à moins de 10 km de la Guinée. La Côte d'Ivoire n'est pas non plus très loin. La piste indiquée sur notre carte nous est déconseillée. Elle n'existe plus, nous dit-on. Deux solutions s'offrent à nous. Rebrousser chemin pour retrouver le goudron ou poursuivre à travers une autre piste qui nous est indiquée. Les évaluations des distances, en kilomètres ou en jours de marche, passent du simple au triple d'une personne à l'autre. Impossible d'avoir plus de précision. Dans l'incertitude la plus totale, nous prenons tous les quatre la décision de nous engager sur cette piste mystérieuse. Une succession de montées et de descentes sur un terrain poussiéreux et rocailleux s'offre à nous. Lorsque nous passons à proximité d'un petit village, les habitants sortent, nous saluent et nous regardent passer. Un cycliste enfourche son vélo et nous suit sur quelques kilomètres. Il est très curieux et pose des questions sur la façon de pédaler sur un tandem, sur nos relations entre blanc et noir. Satisfait, il fait demi-tour. Arrivé à Taban, où nous pensons pouvoir manger, nous découvrons que toutes les réserves ont été épuisées depuis la fin du Ramadan. Nous avons toujours 500 grammes de pâtes dans une sacoche au cas où. Une vieille nous apporte du jus de viande qui lui reste. Le repas est vite avalé. Nos copilotes ont le même avis. C'est bon, mais ça manque de sel et d'épices. Nous venons de leur servir un menu toubabou. Les mots toubab et toubabou désignent un blanc. Nous poursuivons sur la piste. Nous ne croisons que des vélos ou des mobilettes. À chaque pause, nous sommes cernés de toutes parts. Souvent, on nous pose des questions et l'on nous témoigne des marques de sympathie. Parfois, nous sommes abordés directement dans ces termes. « Vous avez de l'argent, aidez-moi, donnez-moi de l'argent. » Draman et Clé se chargent alors de répondre, au risque de se faire insulter par les passants. « Vous pouvez profiter des blancs et vous ne voulez pas partager, vous êtes méchants. » La piste s'arrête. Un lac fait face. Une pirogue échouée ainsi que son propriétaire attendent. Ils ne rejoindront la rive d'en face qu'une fois l'embarcation pleine. John attend aussi. Ghanéen, il transporte sur son vélo une machine à coudre, deux chaises et un sac d'affaires. Les deux tandems, le vélo et les six personnes, peuvent embarquer. Draman et Clé ne sont pas très à l'aise. Ils nous expliquent que c'est la première fois qu'ils montent sur une pirogue. Nous leur faisons toucher la coque, expliquons le fonctionnement afin de les rassurer. Clé demande « Elle a des roues ?» L'expérience ne leur déplaît pas. Pas de montée ni de descente. Il suffit de se laisser pousser, bercé par le bruit de l'eau et du moteur. En touchant terre, John nous conseille de passer la nuit dans son village à 15 km. Il nous confirme que l'itinéraire pris est bien le bon. Nous le suivons. Nos 24 vitesses et nos deux paires de pédales ne sont pas de trop. John dévale le relief avec une aisance déconcertante, esquivant les obstacles sur son vélo rudimentaire. J'essaye de mettre ma roue dans ses traces, mais le tandem n'est pas aussi maniable. Plusieurs fois, Clé m'avertit que nous sommes à proximité d'un village. Je ne vois rien, je n'entends rien. Ce n'est que quelques minutes plus tard que je peux voir ce qu'il a entendu. Quelques coups de pilon, des enfants qui jouent. Il a développé une ouïe très fine. Il me fait découvrir certains éléments du paysage que je suis incapable de voir. C'est ensuite mon tour de lui préciser ce que j'ai pu voir grâce à lui. Entre lui et moi, qui est l'aveugle? Celui qui peut voir sans voir ou celui qui ne voit pas ce qu'il peut voir? Arrivé dans son village, John nous présente à deux de ses amis. Prêtres, ils animent la mission catholique. Clé et Draman font leurs prières sur le parvis de l'église. À l'intérieur, une chorale répète les chants pour la messe du dimanche. À la lueur d'une lampe à pétrole, Jean-Christophe prépare une spécialité sénégalaise, le café Touba. Les visages expriment de la surprise dès la première gorgée. Pas besoin de demander, Ce n'est ni bon ni mauvais, simplement différent. Alors que tout le monde s'endort, nous veillons tous les deux, penchés sur nos journaux de bord. Pendant que je mets en forme les notes prises du récit oral qu'a fait Draman de la journée, Jean-Christophe écrit ces quelques lignes. Le mot « piste » veut tout dire. Du chemin pédestre, reliant deux hameaux à la tôle ondulée empruntée par les camions. De la latérite roulante au sable le plus profond. Du tracé rectiligne sans équivoque au labyrinthe à choix multiples. La piste d'aujourd'hui était un patchwork de ses différentes composantes. La roche n'est jamais loin et fait surface comme un récif. Quand elle surgit sous la roue avant, le pilote se tend. Il donne un coup de guidon ou bloque les freins. Le passager sursaute. Il accompagne le mouvement du tandem, s'agrippe au cadre. Ça passe généralement. Ça casse de temps en temps. Quand l'équilibre se rompt, l'ensemble, homme, machine, bagage, s'effondre dans un nuage de poussière. Pire que de la poudreuse à ski. Le coq nous remet en selle. Clé continue à me guider au son de sa voix. Un feu s'est propagé il y a peu. Je découvre, non loin, un paysage calciné. Des villageois brûlent un champ pour faire de l'engrais. Je scrute l'horizon et finis par apercevoir sur la gauche une fumée qui s'échappe des arbres au loin. Quelques crépitements, quelques odeurs suffisent à Clé pour élargir mon champ de vision. Lors d'une pause, réhydratation, nous découvrons un vieillard assis à l'ombre d'un arbre. Il ne bouge pas et ne dit rien. L'un des habitants nous le présente dans ces termes. C'est un aveugle, il passe ses journées ainsi. Il poursuit sur un ton moqueur. Il sait pourtant que Clé et Draman sont aussi non-voyants, mais ne les considère pas de la même façon. Ils sont arrivés par la force de leurs mollets en compagnie de blancs. Nos compagnons nous expliquent. Dans les villages, on pense que les aveugles ont été l'objet d'un maléfice ou souffrent d'un mal transmissible. Ils sont laissés de côté. Ils ne participent pas aux décisions de la famille et du village. On considère qu'ils ne peuvent pas assumer une femme et ils restent donc célibataires et dans la solitude. Les quelques villageois présents écoutent et ne disent rien. Ils semblent surpris de voir des aveugles s'exprimer ainsi. Nous saluons le vieillard. Il n'aura pas dit un mot durant tout ce temps. Dans un autre village où nous nous arrêtons, je pars seul prendre quelques photos. Avant de photographier une personne, je lui demande toujours son accord. Un gendarme m'arrête. « Avez-vous l'autorisation de prendre des photos ?» J'ai demandé à chaque personne si elle m'autorisait à la prendre. « Avez-vous un papier du ministère du Tourisme vous autorisant à prendre des photos au Mali ?» Personne ne m'a parlé de ce papier. Où peut-on l'obtenir ? Vous êtes en infraction, suivez-moi. Je lui demande la permission de prévenir mes amis. Il me suit. Voyant les tandems, Clé, Draman et Jean-Christophe, il poursuit sur un ton inquisiteur. « Où allez-vous comme ça ?»« À Bougouni, » répond Draman. « Et où dormirez-vous ? » ?»« Chez mon oncle qui est gendarme. » Comment s'appelle-t-il ? À sa réponse, le gendarme s'adoucit d'un coup. C'est moi-même. Le ton change. Les rires s'enchaînent. Clé le traite d'imbécile. Il l'appelle fiston d'un air dédaigneux. Ce gendarme n'est pas seulement l'oncle de Draman. Il est également le cousin de Clé. Le cousinage est très répandu au Mali. Lorsque deux familles sont proches, elles sont dites cousines. Leurs membres se charrient alors, quel que soit leur statut, qu'ils se connaissent ou pas. Les insultes s'enchaînent dans la bonne humeur et la rigolade. La nuit approche. Nous n'atteindrons pas Bougouni. Nous sommes accueillis par les habitants de Madina. Tout le village vient nous observer et nous saluer pendant que nous nous installons sur deux nattes. Les tandems et les équipages en noir et blanc intriguent. Clé et Draman expliquent. Cette fois, ils ont plus de temps. Ils vont dans les détails de leur vie quotidienne. Les études qu'ils ont faites, leurs projets, les problèmes qu'ils rencontrent. Chaque phrase qu'il prononce est ponctuée d'une multitude de « un » de surprises. L'umave, l'écriture braille, le torbol, tout est passé en revue. Draman fait une démonstration de sa monde parlante. Tout le monde est étonné. Le non-voyant, il peut étudier avec le voyant ? Comment peut-il écrire ? Ils n'ont jamais vu des aveugles capables de tant de choses. Ils n'avaient jamais entendu parler de toutes les possibilités qui existent déjà au Mali. Draman explique le fonctionnement de l'écriture braille. « Nous écrivons de droite à gauche, mais nous lisons de gauche à droite. Les 26 lettres sont représentées à l'aide de 6 points en relief. C'est très facile. Chaque point peut être identifié par une partie du corps. Épaule gauche, épaule droite, hanche droite, genou droit. Pour la première fois, Clé accepte de sortir le djembé. Nous le transportons depuis le départ. Il a rarement envie d'en jouer. Il commence par réchauffer la peau en la plaçant au-dessus des braises. Quelques coups lui permettent de savoir si la peau est prête. En effet, au fur et à mesure, le son devient plus gras, plus précis. Nous pouvons commencer à jouer ensemble. Les rythmes s'enchaînent, les mélodies au violon accompagnent. Tout le village s'est rassemblé autour de nous. Les femmes commencent à taper dans leurs mains, à faire quelques mouvements. Pris dans cette atmosphère, je me lève. Tout en jouant, je commence à taper du pied, puis à danser. Les rires fusent. Tout le monde s'y met. Quelques lampes à pétrole nous éclairent. Des femmes chantent. Je reprends leurs airs au violon. Ensemble, nous jouons, exprimons la journée écoulée, la surprise de cette rencontre improvisée.